Bien, bonjour à tous et à toutes, et merci pour votre invitation, et que le Seigneur soit encore loué, béni, adoré cet après-midi en ce lieu où nous nous sommes retrouvés, où le Seigneur nous a conduits, et c'est vrai qu'il puisse aussi accompagner et garder ceux qui sont peut-être en chemin ou qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Persécuté, mais pas seul. Donc nous avons lu ces quelques versets dans Acte 5, versets 38, 42, et je vous invite, une fois que nous aurons eu cet échange, ce partage ensemble, sur ce thème, persécuté mais pas seul, à relire ces versets avec l'éclairage que nous avons eu ensemble cet après-midi. Donc il est question aussi dans ces versets de persécution, hein, le chrétien persécuté, le corps du Christ, l'Église persécutée. Nous pouvons voir aujourd'hui que la persécution revêt plusieurs aspects, du plus banal, on va dire, la brimade, la moquerie, au plus dur, le rejet, la déportation, la privation des biens, la séparation avec la famille, la torture et voire parfois la mort. Pour certains, la persécution prend la forme de moquerie ou de raillerie. D'autres perdent leur emploi ou connaissent des difficultés financières. Certains sont même jetés en prison, torturés, même mis à mort. Et la semaine dernière, lorsque je lisais Actes, effectivement, j'ai lu ces versets et ça m'a interpellé dans le phénomène de la persécution. Et porte ouverte, je pense que vous connaissez porte ouverte, hein, le mois dernier, ont édité quelque chose sur l'Église persécutée. Donc nous allons voir trois, voire quatre étapes. J'essaierai de boucler ça aujourd'hui. Le premier point, donc la persécution proprement dite. Donc nous voyons déjà dans l'Ancien Testament le peuple qui a été persécuté, emmené en déportation en Égypte, a été accablé par des travaux pénibles. Mais cela ne s'arrêta pas là. La Bible est jonchée d'exemples plus ou moins cruels sur la persécution. Dans Luc au chapitre 6, au verset 26 et 29, « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. » Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Je ne sais pas si on réagit forcément de la même manière chaque fois qu'on se sent, on va dire, agressé. Notre nature humaine nous pousse naturellement à apprécier les gens aimables. On va plus facilement vers quelqu'un qui a le sourire que quelqu'un qui fait la tête, comme on dit. Et puis dans ce verset, aimez-vous les uns les autres. Ah, donc il y a les uns, puis il y a les autres. Il y a les uns, ceux qui sont, on va dire, relativement faciles à aimer. Et puis il y a les autres, les cas difficiles. Et pourtant, le Seigneur nous encourage, nous invite à aimer, je dirais, davantage les autres que les uns. Dans Acte 8, donc après cela, au verset 1 à 4, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, une grande persécution, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et ils le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, arrachait les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Seule la prière peut nous rendre capables d'avoir les sentiments de Jésus envers ceux qui nous persécutent. Mais ce n'est pas resté là le cas de Saul et de Paul, hein, qui sont la même personne, bien sûr. C'est vraiment un cas intéressant à lire. Comme il était en chemin, donc Saul, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba à terre, il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Dans son action de persécution envers les chrétiens, envers l'Église, Paul persécutait Dieu lui-même. Saul, cet homme plein d'assurance, versé dans les Écritures, pensait pouvoir s'octroyer le droit de mettre la main sur les disciples de Christ, les priver de leur foi, les humilier, les faire battre, les jeter en prison, voire les lapider, les tuer. Je dirais plutôt les massacrer. Il faut savoir que sur le chemin de Damas, muni d'une autorisation officielle du souverain sacrificateur pour ramener enchaînés à Jérusalem les chrétiens afin qu'ils soient jugés et punis. Saul, qui avait l'intime conviction que Christ, leur chef, était mort, Jésus est mort, bon débarras, le chef de file n'est plus là. Et quand un chef de file n'est plus là, derrière, en général, c'est la débandade. Donc pour Saul, le tombeau était vide, peu importe, Jésus avait été crucifié. C'est précisément à cet instant-là que l'imprévu va se produire. Qui aurait pu prédire ce qu'il est arrivé à Saul, le grand persécuteur? Le rebelle va être dompté. Sans prévenir, Jésus-Christ entre en scène pour balayer sa folie et réduire en poussière ses plans destructeurs. L'église d'Antioche est une belle illustration de cet amour difficile à développer. Cette église est née suite à la persécution de Saul de Tarse à Jérusalem. La folie meurtrière de cet homme, visible dans le meurtre d'Étienne, et de plusieurs emprisonnements, poussant les chrétiens de Jérusalem terrifiés à se disperser. Et c'est ce qui donna la naissance de l'église d'Antioche. La cause et l'effet. Dans Actes 11, versets 25-27, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Paul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche d'ailleurs que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voilà. Le nom chrétien vient de l'Église d'Antioche. Vous imaginez quel changement, je dirais miraculeux. Un persécuteur devient, on va dire, un bienfaiteur, un annonceur de la parole du Dieu vivant. Celui qui persécutait, c'est devenu un de ses plus fidèles disciples. Un apôtre. Non seulement l'Église le reçoit en tant que membre, mais en plus en tant qu'enseignant du royaume de Dieu. Et ce n'est pas un hasard si cet épisode biblique se conclut en ces mots: ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Chrétien veut dire petit Christ. Les croyants d'Antioche étaient de petits Christ, des hommes et des femmes capables de pardonner. Mais seule la prière peut nous rendre capables vers ces sentiments de Jésus. Il est mort pour nous alors que nous-mêmes, nous étions ses persécuteurs quelque part, des rebelles. Absolument pas animés de l'Esprit de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Quel impact lorsque nous témoignons de l'amour aux gens peu aimables, les fameux, les autres. C'est pas facile, voire c'est même difficile. Si à Antioche cela a fait du bruit, cela peut faire également du bruit dans ma famille, dans mon quartier, voire dans mon lieu de travail. Seigneur, ma prière serait: Seigneur, aide-moi à aimer les gens peu aimables, Parce que c'est là que la réalité de la parole de Dieu se révèle d'autant plus. Par contre, je ne veux pas passer de l'agressivité que je peux avoir en moi à la serpillière attitude. On peut faire de moi ce que l'on veut, on peut m'écraser, me marcher dessus. Dans Jérémie, au chapitre 20, on repart dans l'Ancien Testament, Pachour, fils d'Immer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait certaines choses. Et Pachour frappa Jérémie le prophète. Il le mit en prison qui était à la porte supérieure de Benjamin dans la maison de l'Éternel. Il le fit battre, il le fit attacher au pilori. Donc c'est un peu l'image que l'on retrouve sur le programme d'aujourd'hui. Et dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Dans notre monde actuel, des millions de chrétiens souffrent pour leur foi. Selon un rapport de l'annuaire allemand Martyr 2007, et ça c'était en 2007, hein, au moins 200 millions de chrétiens subissent la persécution et la discrimination pour leur foi. La situation d'un grand nombre de chrétiens s'est détériorée. En Irak, 3 chrétiens sur 4 ont quitté leur pays par crainte d'être harcelés, assassinés, enlevés, violés, et j'en passe, c'est des moins bonnes. Dans plusieurs pays à dominance musulmane, les chrétiens font continuellement l'objet de persécutions et d'autres sont assassinés. On essaye de les convertir à l'islam pour éviter qu'ils soient tués, et sinon on les expulse ou on les tue. Et ça a été encore d'actualité dernièrement aux informations. Nous avons entendu beaucoup de ce genre de situation. Le point 2, dans tout cet aspect, je dirais, négatif, mais avec beaucoup de positif derrière, s'il n'y avait pas eu de persécution, il n'y aurait pas eu d'évangélisation, d'église, de témoignage, de conversion, et ainsi de suite. Effectivement, c'est très dur de le vivre. Je ne souhaite à personne d'être persécuté. Mais c'est une réalité biblique. Et au point 2, au travers de tout cela, je dirais, persécuté, d'accord, mais pas seul. Mais pas seul. Un petit témoignage d'une fille qui s'appelle Alice, qui était super découragée. Alors elle écrivit une longue lettre à sa meilleure amie pour lui raconter tout son chagrin, tout ce qui lui pesait, tout son dégoût, tout son désarroi et ainsi de suite. Mais à la fin, elle ne mit pas l'enveloppe, la feuille dans l'enveloppe pour l'envoyer ou pour la donner à son amie, elle l'a mis dans son tiroir. Et puis quelques temps plus tard, elle réouvre son tiroir, elle relit cette lettre, et cette lettre bien sûr ravive sa douleur qui était encore très présente. De rage, elle déchire cette lettre et elle le jette dans un vase qui était à côté, un vase rempli d'eau. Tous les mots qui ont exprimé son désespoir se sont effacés avec l'eau. L'encre s'est diluée, il n'y a plus rien resté. Seul un seul bout de papier sur lequel était écrit Dieu. Désespéré, mais pas seul. Dieu ne l'avait pas abandonné, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu est là. Et là, Alice reprend courage en éprouvant la présence de Dieu en ce moment particulier de sa vie, en priant et en demandant à Dieu d'intervenir dans sa vie. Ce qui dissipe notre crainte au travers de tout cela, ce n'est pas la force que je peux puiser en moi. Je peux en puiser une certaine quantité, mais elle est ô combien insuffisante devant les épreuves de notre vie parfois. Ce n'est pas non plus que nous sous-estimions les difficultés ou que nous manquions de compassion pour nos semblables. Mais nous avons la conviction que Dieu Tout-Puissant notre Père, qui est plus grand que tous les mots réunis, est là avec nous. Il suffit pour nous de lui demander de nous remplir de confiance et de paix. Et il le fait. Troisième point, donc, persécuté mais pas seul, et j'aurais pu rajouter, persécuté mais pas seul et pas abandonné. Et ça, c'est le troisième point. Dieu ne nous abandonne pas. Nous pouvons être persécutés. Nous pouvons avoir ce sentiment de ne pas être seul, mais Dieu ne nous abandonne pas dans ces situations-là. Je vais vous citer juste deux livres, je vous les montrerai à la fin, en conclusion, si ça intéresse quelqu'un de les lire. C'est très intéressant, très enrichissant comme livre. Il y a d'abord le témoignage d'Alexis, qui a été condamné à 25 ans de travaux forcés parce qu'il aimait la parole de Dieu, parce qu'il avait une Bible chez lui. Et surtout qu'il ne voulait pas renier son Sauveur. Sa foi, malgré tout, en prison, se propagea à d'autres et à certains gardiens. Alexis écrivit « Les innombrables camps de travail existant en Russie se prêtent admirablement aux activités missionnaires. C'est pourquoi Dieu permet qu'un grand nombre de ses enfants apportent la lumière dans ces sombres ténèbres. Il est un fait certain. Lorsqu'un croyant entre dans un camp, il en ressort plusieurs. » Il était hors de question qu'un pasteur se présente à l'entrée du camp en disant « Je suis aumônier, comme on pourrait dire aujourd'hui, hein, je suis aumônier de prison, aumônier militaire, je viens partager la parole de Dieu. » Là, ça serait « Hop, en prison, direct. » Non, la parole venait de l'intérieur. Et vous verrez dans ce livre, il y a ô combien ils écrivaient ce qu'ils se souvenaient de la parole de Dieu sur des bouts de papier, ils se les donnaient entre prisonniers pour que chacun puisse lire un morceau de la Bible. Et ce bout de papier, ils le cachaient dans des endroits incroyables pour qu'il ne soit pas pris, brûlé, détruit et qu'il se retrouve sans lecture. Et puis un autre témoignage d'un livre qui s'appelle « Solitaire mais pas seul » de Nicky Cruz. Et j'ai juste relevé deux choses, deux phrases. Remerciez Dieu pour chaque circonstance, chaque personne, chaque détail de votre vie. Plus vous vous entraînerez à obéir à 1 Thessaloniciens 5:18, et plus vite, toutes choses concourront à votre bien. Rejetons la tentation de chercher à comprendre les raisons de ce qui nous arrive avant d'en remercier Dieu. Parfois, le fait de comprendre empêche de croire. D'ailleurs, si Dieu prévoit avec amour nos circonstances pour votre bien et sa gloire, pourquoi faut-il que nous comprenions? Voilà, c'est une attitude. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16, « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. » Et de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous et vous toutes. Amen. Non, je me demande si nous avons déjà ressenti ce sentiment de solitude devant les difficultés, devant l'injustice, devant certains problèmes insurmontables, la maladie, la détresse. Mais comment je vais faire? Je me sens seul, désemparé. Découragé. Et combien de fois, moi, jeune chrétien ou chrétien un peu plus mûr, je me suis posé la question, ou alors est-ce que j'avais peut-être pas quelque part au fond de moi-même l'impression que j'étais seul, j'étais limite abandonné? C'est bon, le Seigneur s'est lassé de moi. Il me laisse me débrouiller dans ma misère. Son silence est insupportable et je n'ai pas de réponse à mes prières. Peut-être que c'est une situation difficile que je rencontre, sans issue, enfin qui semble sans issue. Il n'y a pas de situation difficile qui n'est pas sans issue, car nous savons que Dieu est à nos côtés, nous ne sommes pas seuls et que nous ne sommes pas abandonnés parce que Dieu sait le pourquoi et Dieu sait ce qu'il fait. On trouve encore dans la Bible d'autres exemples où justement nous pouvons réunir ces trois éléments, la persécution, la solitude, l'abandon. C'est par exemple, et nous l'avons déjà cité, quand certains captifs se sont retrouvés jetés dans la fournaise, ils n'ont pas été brûlés. Par contre, c'est les gardiens de la fournaise qui ont été brûlés, et ils sont morts. Mais pas ceux qui étaient à l'intérieur. Je vous laisse relire, bien sûr, vous avez compris, c'était l'histoire de Daniel. Je vous laisse relire Daniel 3, chapitre 3, versets 21 à 36. Je ne vais pas le lire, je vous laisse reprendre ces versets-là pour que vous ayez le temps de bien relire ça et que nous ayons le temps d'aller plus loin. Et puis aussi, celui qui a été jeté dans la fosse aux lions, les lions ne l'ont même pas, je dirais, reniflé, même pas approché. Daniel, chapitre 6, verset 22-23. Et puis, puisque nous avons parlé de lui tout à l'heure, Paul, dans un cachot d'une prison de Rome, à la veille de son exécution, Paul écrivait dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 16 à 17, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé, car c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. » Paul ne rejette pas la faute sur les autres. Il demande même à Dieu la clémence pour eux. Comme Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Cherche pas à rejeter la faute sur les autres ou à se déculpabiliser. Quel Dieu que notre Dieu! Dans toutes les circonstances de notre vie, si nous nous confions en lui, il est prêt à nous tendre la main. D'ailleurs, quand je ne tiens plus la main de Jésus, c'est moi qui lui ai lâché la main. Quand je ne vois plus ses pas à côté de moi, c'est que je me suis éloigné. Ou quand je ne vois qu'une paire de pas, ce sont les pas de Jésus et moi qui suis porté dans ses bras. Ésaïe, chapitre 42, verset 6. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et pas pour la solitude et l'abandon. Et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Et parfois, il faut l'emprisonnement pour que la parole de Dieu, la lumière de Dieu brille dans les ténèbres. Les aumôniers des prisons vous raconteront que, effectivement, des détenus découvrent la parole de Dieu dans leurs cellules. Et certains même disent, quand j'étais dehors, je pensais que j'étais libre, mais en fait, j'étais prisonnier dehors. Et c'est maintenant en prison, alors que je ne suis pas libre, qu'intérieurement, je suis libre parce que j'ai découvert le salut, j'ai découvert Christ. Le Seigneur, au travers de tout cela, nous dit « Ne vous inquiétez de rien. » Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne crains rien, car je suis avec toi. Et citons Ésaïe, chapitre 63, verset 9, « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. » Et ça, c'est toujours, c'est d'actualité. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés, et il les a même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Il les a lui-même rachetés, et constamment il les a soutenus et portés. Puis je vous laisse lire aussi 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 9. Et là, justement, verset 9, nous sommes pressés de toute manière, pressés, persécutés, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Il y a des témoignages bouleversants des chrétiens irakiens qui ont été persécutés, chassés, mais qui ont refusé de renier leur Dieu. Et aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens vivent des moments difficiles, très difficiles. Appartenir à Christ, c'est comme si c'était... C'est pas comme si c'était, c'est que c'est une infamie pour ces autorités-là. Alors je vous propose, dernier point, le point 4, différents sujets de prière. Alors bien sûr, vous n'allez pas avoir le temps de les noter, mais allez sur le site, comme ça vous allez retrouver les différents sujets de prière que j'aimerais vous laisser. Prions pour les dirigeants des États et des provinces qui craignent Dieu. Daniel, pour illustrer, Daniel chapitre 4, verset 17. Prions pour que les attaques violentes contre les chrétiens cessent et que les gouvernements mettent tout en œuvre pour protéger tous les citoyens. Certains États aimeraient aider les chrétiens, mais ne savent pas comment faire. Ou alors les moyens humanitaires sont à leur contrée, à leur frontière, mais ils ne les laissent pas rentrer. Lecture, psaume 3, versets 1 à 4. Et prions pour la fin des attaques contre les chrétiens et les églises. Psaume 31, versets 14 à 22. Et prions aussi pour la protection, la réussite et la sagesse de ceux qui cherchent à répandre l'Évangile. Josué, chapitre 1er, versets 5 à 7. Prions que les chrétiens à travers le monde prennent position en faveur des peuples opprimés. Proverbe, chapitre 31, versets 8 à 9. Prions que l'Évangile se propage comme un feu dévorant. Zacharie, chapitre 4, verset 6 et acte 2, versets 7 et 11. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens, pardon, et comment les entendons-nous dans leur propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Et puis souvenez-vous aussi des apôtres qui se sont retrouvés prisonniers et que l'ange est venu ouvrir les portes, les a délivrés, a fait tomber les chaînes, les a fait sortir, et ils ont pu retrouver leur famille et leurs frères et sœurs. Rien n'est impossible à Dieu. Mais la prière est importante, la prière est nécessaire. Persécuté, mais pas seul, et surtout pas abandonné. Et je vous invite à, comme je vous disais tout à l'heure, à relire les premiers versets, à la lumière de ce que nous venons de partager ensemble. Que le Seigneur bénisse sa parole.